France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et excellente année 2025 au sommaire aujourd'hui. Un nouveau tour de vis en ce 1er janvier pour les voitures les plus polluantes. Ça se passe dans 4 agglomérations du pays. Les automobilistes concernés ne comprennent pas. Nous serons à Lyon dans un instant. Le marché des voitures neuves, l'an dernier marqué par un recul global des ventes, mais un engouement pour l'hybride. Le détail dans quelques instants. À suivre encore, un réveillon endeuillé aux États-Unis. On l'a appris il y a quelques minutes. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Vous êtes en direct de New York, au moins 10 morts à la Nouvelle-Orléans, un véhicule a foncé dans la foule.
Oui, absolument, 10 morts et 30 blessés, et puis des coups de feu qui ont été tirés selon les premières informations qui nous parviennent.
On va vous retrouver dans les prochaines minutes en direct des États-Unis. Nous serons également en Allemagne, réveillon endeuillé là aussi, 5 morts la nuit dernière liés à l'utilisation d'engins pyrotechniques. Nous verrons également qu'Emmanuel Macron agite à nouveau l'idée d'un référendum. Il l'a évoqué hier soir dans ses vœux, que le diocèse de Corse n'a pas encore bouclé son budget pour payer la visite du pape, c'était il y a 2 semaines, et qu'il y a de plus en plus de malades qui souffrent de syndrome grippaux en ce début d'année. Reportage à Rennes dans quelques minutes. À partir de 13h30, il a vécu une année 2024 exceptionnelle, élu meilleur entraîneur de Ligue 1 de foot, révélation de la Ligue des Champions avec son club de Brest. Il en espère évidemment autant en 2025. Éric Roy, le Niçois qui a séduit les Bretons avec nous, 01 45 24 7000. Pour vos questions, 13h50, c'est la France. Éric Fotorino du 1 Hebdo nous parle du père de la presse moderne, Émile de Girardin, la pub, les feuilletons, les petites annonces, c'est lui. Juste avant 14h, c'est une chanson, Marie Darieussecq qui demande Taxi Girl à Frédéric Pommier. Sans oublier les conseils cinéma, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
4 films au programme aujourd'hui.
Ouais, je vous propose un vrai petit tour du monde cinéphilie qui va nous emmener à Hong Kong, en Finlande, en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre.
Merci Alexis, je vous dis à tout à l'heure, c'est le premier 13-14 de l'année. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Deux manières de débuter 2025. L'une est choisie, l'autre subie. Nous serons dans un instant avec des grippés à Rennes et ils sont nombreux en ce début d'année. Mais avant cela, les bonnes résolutions. Pour la 8e année consécutive, le sport arrive en tête du sondage Ipsos. 34% des Français, toutes générations confondues, sont prêts à s'y mettre cette année. Bonjour Juliette Mély.
Bonjour.
Vous étiez ce matin à Paris avec les premiers sportifs de l'année.
Sur les quais de Seine, Thierry, la cinquantaine, enchaîne les petites foulées. Hier soir, il a passé la soirée avec des amis, mais pas trop tard pour commencer 2025, comme il a terminé 2024 sainement.
C'est un principe. J'ai couru hier le 31 et je cours aujourd'hui le 1er pour démarrer l'année. Je suis encore depuis, ça fait 40 ans que je cours. Pas d'exception pour moi.
Entre courir et réveillonner, le choix est vite pris pour Farah, étudiante.
J'ai pas fait la fête au point de pas pouvoir me lever ce matin. Vous êtes levée à quelle heure pour aller courir ? À 9h. C'est pas si tôt que ça quand on en a l'habitude.
Et pour que tout le monde garde ses habitudes, beaucoup de salles de sport sont ouvertes. Aux haltères, Adrien, 17 ans, élimine ses petits excès d'hier.
Je veux dire, il y a une petite soirée, donc après, voilà, on se reprend en forme, on ne se laisse pas aller, quoi. C'est le 1er janvier, il y a aussi un truc de... Bah, si on rate la séance le 1er janvier, qu'est-ce que ça va être le reste de l'année, quoi.
Même motivation pour Grégory, 33 ans, qui a une routine sportive bien rodée.
On va travailler justement avec du squat, on va travailler avec de la leg press et ensuite avec d'autres exercices.
Son maître mot, la régularité.
Simplement pour pouvoir justement faire ma routine et aussi en même temps pour être healthy, quoi. J'essaie justement d'éviter de la déroger, j'essaie toujours de maintenir, on va dire, un rythme fréquent. C'est comme le travail.
Après l'effort, pour Grégory, il s'offrira un petit morceau de chocolat, sa folie du 1er janvier.
Merci Juliette Mélisse, pas tout de prendre des bonnes résolutions, ensuite il faut les tenir toute l'année. Premier événement sportif majeur cette année, les championnats du monde de handball à partir du 14 janvier. Toute autre ambiance donc en ce moment dans les services d'urgence de nos hôpitaux. Certains sont saturés, le ministre de la Santé Yannick Neuder s'est rendu par exemple ce matin à celui de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Même impression dans les salles d'attente des médecins. Ainsi, en Bretagne, le nombre de personnes souffrant de la grippe ou d'un état grippal a nettement augmenté ces dernières semaines. Et ça se ressent chez SOS Médecins. Reportage à Rennes, Céline Guettaz.
Masque sur le nez et petite mine fatiguée, Gilles passe un sale réveillon du nouvel an.
Réveillon pourri parce que là, ça ne donne pas envie de manger. Ni de...
Chez lui, tout le monde est malade en ce moment.
J'ai chopé un truc en fin de semaine. Mes petits-enfants sont malades. Enfin, ma petite-fille, elle, ça va mieux du coup. Parce qu'elle a commencé par elle. mon genre et tous aussi. Mais...
Si on devait faire un bingo des symptômes de la grippe, Gwendal, assis dans une autre salle d'attente, cocherait toutes les cases.
Ça fait 4 jours que je suis couché et bah voilà, c'est comme un gros rhume, quoi. Et puis avec fièvre, un petit peu de tout. Et puis une conjonctivite, du coup, qui s'est déclenchée suite à ça.
Pourtant habitué au vaccin contre la grippe, cette année...
J'ai raté mon vaccin cette année. Bah, l'année prochaine, je pense que je vais le refaire, ouais. Pas me faire avoir deux fois.
Pas le choix que de passer sa matinée du 31 chez SOS Médecin.
Mon rendez-vous chez le médecin, c'était pas avant le 10 janvier, je crois. Je peux pas traîner ce que j'ai là plus longtemps, quoi.
Et de l'autre côté du couloir, dans la salle de consultation aussi, ça n'arrête pas, docteur Thomas Gaillou.
Quand je regarde les consultations à venir, il y a effectivement de l'état grippal, de la toux, de la fièvre, et ça va à tout âge. Hein. Ça va du nourrisson à la personne retraitée.
Il rappelle les bons gestes pour se protéger et protéger les autres, porter un masque quand on est malade et bien se laver les mains.
Reportage France Bleu Armorique. Parmi les changements pour la santé en ce début d'année, la hausse du tarif des consultations de 26,50 à 30 euros pour les généralistes, ainsi qu'un nouveau carnet de santé pour les bébés de 2025. En Indre-et-Loire, le premier bébé de l'année est né à Tours. À 1h47 ce matin, elle se prénomme Iliana. C'est précisément pour préserver la santé des habitants que la vigilance rouge est déclenchée dans 3 départements du Sud. Les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, vigilance rouge aux particules fines. Tout comme dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, la qualité de l'air y est mauvaise. Dans ces départements, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Ce qui nous amène à la situation du marché de l'auto en France. Bonjour Antoine Geoffin.
Bonjour.
On a depuis ce matin les chiffres des ventes pour l'année 2024. Vous allez nous les détailler dans un instant, mais allons d'abord à Lyon, car on sait que les conducteurs dans leurs achats sont sensibles à la réglementation et elle change donc en ce 1er janvier dans les métropoles du Grand Paris, de Lyon, de Montpellier et de Grenoble, qui limitent la circulation des véhicules dotés d'une vignette critère 3, c'est-à-dire les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les voitures à essence immatriculées avant 2006. Christophe Vincent a pris sa voiture dans l'agglomération lyonnaise.
Fini les vieilles voitures à Lyon, Villeurbanne, Caluire et dans une partie de Bron et Vénissieux. 50 000 diesels de 15 ans et essence de 20 ans y sont interdits. Leur propriétaire, plutôt âgé, fulmine.
Je vais plus avoir le droit d'aller voir ma chérie qui habite Villeurbanne. On est 6 potes qui sont à la retraite et qui ne pouvons pas changer de voiture. On va rouler quitte à risquer de prendre des PV. Parce qu'on n'a pas le choix. J'ai rien contre personne, mais comment ça vient de nous emmerder tous.
C'est catastrophique, je veux dire, qu'est-ce qu'on va devenir, surtout quand on est âgé. Je trouve ça vraiment injuste et terrible. Donc je ne vois pas comment je vais faire.
Faute de radar, prévu fin 2026, seuls les véhicules stationnés ou stoppés par un contrôle seront verbalisés. La métropole propose aussi une dérogation petit rouleur, 52 jours par an. Jean-Charles Collas est vice-président chargé des déplacements.
C'est bien la loi, donc l'État qui a décidé la mise en place de ces ZFE et qui les a maintenus sur Paris et Lyon, puisqu'on a encore un niveau de pollution trop élevé et donc beaucoup d'enfants qui sont malades de cette pollution. Mais tous les véhicules ne seront pas contrôlés dès le 1er janvier et tous les jours.
Dans 3 ans, tous les diesels seront bannis, soit la moitié du parc automobile.
Christophe Vincent à Lyon pour Inter. Antoine Geoffin, on a entendu ces automobilistes et quand on regarde les chiffres de 2024, on constate d'abord que les ventes de voitures neuves sont en recul.
Oui, moins 3,2% selon la plateforme automobile, soit 1 718 000 voitures neuves immatriculées en France l'an dernier. C'est le groupe Stellantis, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot qui enregistre la plus forte baisse, moins 7%. Le groupe Renault est lui en chute de 2,7%, mais se console avec le modèle le plus vendu de l'année, la Clio 5, juste devant la Peugeot 208. Un constructeur, Jérôme, tire son épingle du jeu, Toyota, en très bonne forme avec une hausse de 18,6% en France.
Un succès de Toyota, Antoine, qui s'explique. Hein, le constructeur japonais est porté par le succès de ses hybrides.
Oui, selon l'Argus, c'est le leader en France sur ce type de véhicule. La Yaris Cross et la Yaris occupent d'ailleurs les 2 premières places du podium des voitures les plus vendues de l'année, devant la Clio version hybride. Les Français choisissent majoritairement ce type de motorisation, presque 43% du marché désormais, loin devant l'essence qui recule sous la barre des 30%. Les Français séduits par cette facilité d'utilisation, surtout dans les zones périurbaines pour les trajets courts, avance l'Organisation internationale des constructeurs automobiles qui observe une évolution inexorable vers l'électrification du marché. Les constructeurs, eux, poussent pour ce type de motorisation liée par les objectifs de réduction d'émissions de CO2 fixés par l'Union européenne. européenne. Ces ventes leur permettent de contribuer à l'objectif de réduction d'émissions fixé par Bruxelles. Surtout que dans le même temps, la vente des voitures électriques reste stable avec un peu moins de 17% du marché en 2024. Afin de respecter les objectifs que fixe l'Union européenne, cette part devra passer à 22% cette année, en 2025.
Merci Antoine Jeufin. Toujours sur les routes, ce réveillon de la Saint-Sylvestre a été marqué comme redouté par de nombreux accidents. À Nantes, 3 véhicules en cause, 6 personnes impliquées, 3 hospitalisations, dont celle d'un bébé. Plus lourd à Strasbourg, où un adolescent de 15 ans est mort renversé par un chauffard en voiture qui a pris la fuite. Quartier de la cité de Lille, au-delà de ce fait, dans la capitale alsacienne, à nouveau des voitures brûlées, des interpellations. Mais la nuit a été plus calme que prévu après plusieurs jours de violences urbaines. Réveillon endeuillé donc également aux États-Unis. On l'a appris peu avant 13h. On vous retrouve en direct de New York, Loïc Loury, avec cette voiture qui a foncé dans la foule. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Au moins 10 morts.
Oui, absolument. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est un communiqué de la ville sans grande précision. 10 morts et 30 blessés pendant les célébrations du Nouvel An, après qu'un véhicule a foncé sur une large foule à la Nouvelle-Orléans, dans le French Quarter. C'est un quartier très connu et surtout très fréquenté du centre historique de la ville, à l'intersection de Canal Street et Bourbon Street. L'heure n'a pas été précisée pour l'instant, mais il y avait sans aucun doute une foule compacte pendant la nuit à cet endroit-ci. Alors, d'après les témoignages qui commencent à circuler, on parle sur CBS d'un camion qui aurait foncé sur les gens et d'un homme sorti du véhicule avant de tirer des coups de feu avant la riposte de la police. Mêmes informations sur CNN, où l'on évoque un véhicule se précipitant sur la foule. Un jeune homme présent sur les lieux évoque le corps d'une personne volant vers lui après avoir été percuté par le véhicule et parle lui aussi de coups de feu. Encore une fois, il est toujours très tôt, très peu d'informations jusque-là. Il est à peine 6h du matin sur la côte est américaine et donc à la Nouvelle-Orléans, où le bilan est de 10 morts et 30 blessés pour l'instant.
Merci Loïc Loury pour ces dernières informations en direct de New York. Un 31 décembre sombre également en Allemagne. Là, ça n'est pas lié à ce qui se passe sur la route, mais à la consommation, comme tous les ans, par les Allemands de pétards, fusées et autres engins pyrotechniques. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin et je le disais il y a quelques minutes, bilan très lourd cette année. 5 morts et beaucoup de blessés.
Oui, parce que chaque nuit de la Saint-Sylvestre à Berlin et d'ailleurs partout en Allemagne, c'est assez impressionnant. À minuit et même bien avant, dès que la nuit tombe, en fait, les Allemands allument leurs feux d'artifice qui sont mis en vente seulement 2 jours avant le réveillon. Alors ce que vous entendez, c'est un enregistrement que j'ai réalisé peu après minuit, pas très loin du centre de Berlin. Il y a des pétards, des fusées, des chandelles romaines, des feux de Bengale, un peu de tout. Certains les lancent depuis leur balcon, d'autres les allument sur les trottoirs devant chez eux ou parfois même sur la chaussée, en plein milieu de la circulation des voitures et des bus. Et chaque année, il y a des accidents, au moins 5 morts la nuit dernière, vous l'avez dit, 5 hommes de 20 à 50 ans tués à cause d'une erreur de manipulation ou parce qu'ils ont utilisé des engins pyrotechniques trop puissants de fabrication artisanale et illégaux en Allemagne. On compte aussi de nombreux blessés. Certains ont perdu des doigts ou une main. Un enfant de 10 ans a été gravement brûlé au visage par l'explosion d'un pétard. L'an passé, 3 personnes déjà avaient été tuées. À chaque fois, ces accidents font ressurgir le débat. Faut-il interdire les feux d'artifice? Mais rien à faire. La tradition reste solidement ancrée ici outre cette année, les fabricants ont vendu 15% de feux d'artifice de plus qu'en 2023.
Merci Sébastien Baer, en direct d'Allemagne. Je reviens à la situation sécuritaire en France, avec ce chiffre qui ne cesse d'enfler, le nombre de détenus dans notre pays. Nouveau record au 1er décembre dernier, puisque les chiffres ne sont officialisés qu'un mois après. 80 792 personnes, soit 600 de plus qu'en novembre, ce qui aggrave encore la surpopulation carcérale de 130%. En moyenne, c'est l'un des pires chiffres d'Europe. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un établissement surpeuplé?
Alors, on pense évidemment tout de suite au matelas par terre, hein, 4255 détenus qui ne dorment pas dans un vrai lit. Mais ça a aussi des conséquences sur les activités du quotidien. Pas assez de place pour faire travailler tous ceux qui veulent à l'atelier ou pour suivre des cours, l'attente pour un rendez-vous médical. Et sans en arriver au matelas au sol, dans un établissement qui est à la limite de la surpopulation, impossible parfois de changer de cellule des détenus qui ne s'entendent pas, ce qui fait aussi monter les tensions. Et quand on discute avec des directeurs d'établissement, ils expliquent que la surpopulation se ressent sur le nombre d'incidents et sur l'agressivité envers le personnel pénitentiaire en première ligne.
Le chef de l'État avait pourtant promis la construction de 15 000 places de prison.
Oui, d'ici 2027, promesse qui ne sera pas tenu, a reconnu en novembre dernier Didier Migaud, qui était ministre de la Justice. À plus courte échelle, en un an, 1 000 000 de places supplémentaires ont été ouvertes. Places opérationnelles, parce que vous avez des cas comme celui de Fleury-Mérogis où un centre de détention a été ouvert, puis fermé à cause de problèmes sur le bâtiment. Mais comme le nombre d'incarcérations augmente, la surpopulation reste à peu près la même, 123% l'an dernier, à la même époque, 130, vous l'avez dit cette année. Un taux beaucoup plus important dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire là où sont incarcérées les personnes qui attendent leur jugement, et où restent parfois également celles qui ont été jugées, mais en attendant de leur trouver une place, 156%. Et il y a en France une quinzaine d'établissements ou de quartiers pénitentiaires où la surpopulation atteint 200%, soit 2 détenus pour une seule place.
Merci Ariane Grissel. J'ajoute que dans le Nord, cet homme pourrait être incarcéré. Il est pour l'heure en garde à vue. Sa compagne est morte la nuit dernière, victime de coups, commune d'Aumont. Et son conjoint s'est accusé de l'avoir frappé. C'est lui qui a prévenu les secours.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Une nouveauté et du déjà vu dans les vœux du chef de l'État aux Français hier soir. La nouveauté, c'est ce clip avec des images de 2024 qui ont ouvert cette prise de parole longue de 11 minutes. Images positives de l'année écoulée, suivie par un peu moins de 10 millions de téléspectateurs. Hier soir, 9 700 000 précisément. C'est un peu moins que pour les vœux prononcés le 31 décembre 2023. Mais le président Emmanuel Macron a aussi repassé les plats hier soir, et notamment celui, semble-t-il, du référendum, avec cette phrase « En 2025, je vous demanderai de trancher certains de ces sujets déterminants ». Fin de citation, notez que le mot même de référendum n'a pas été prononcé. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Enfin, on comprend que c'est l'idée, une idée autour de laquelle Emmanuel Macron tourne en fait depuis son arrivée à l'Élysée en 2017.
Oui, entre le référendum et Emmanuel Macron, c'est une histoire sans lendemain, très souvent évoquée, jamais mise en œuvre, et ça depuis la crise des Gilets jaunes. La difficulté pour le président étant de trouver la bonne question, la thématique idéale pour que cette consultation populaire ne lui revienne pas en boomerang, ne se transforme pas en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Alors il y a eu bien des idées, interroger les Français sur l'inscription de la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, ou bien sur la réforme des institutions, plus récemment sur la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Aux rencontres de Saint-Denis en 2023, le chef de l'État ouvre aussi la voie à une extension du référendum aux questions de société et donc à une consultation sur l'immigration, ce que réclame entre autres le RN, mais pour ça il faut modifier la Constitution. Trop dangereux, jugent de nombreux participants, trop incertain, la discussion tourne en rond et la proposition reste une nouvelle fois lettre morte. Alors qu'en sera-t-il cette fois? Sur le fond comme la forme, Emmanuel Macron est resté, vous l'avez dit, très évasif. Son entourage n'est pas plus précis, référendum ou convention citoyenne, tout est ouvert.
Merci Élodie Forêt. Emmanuel Macron, qui on s'en souvient, avait fait l'aller-retour Paris-Ajaccio mi-décembre pour y saluer le pape François, alors en visite en Corse. Hormis la sécurité, l'État n'a pas participé au financement de ce voyage, payé par le diocèse, soutenu lui-même par des dons, mais 2 semaines et demie plus tard, le budget n'est pas encore bouclé. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour.
Même si 1 000 000 d'euros ont déjà été récoltés.
Oui, c'est un premier bilan dressé par le diocèse. Les dons qui vont de 3 euros à des dizaines de millions, de milliers d'euros. Frédéric Constant, vicaire général du diocèse d'Ajaccio.
On voit qu'il y a un très bel élan de générosité. Les gens ont été généreux et que nous attendons encore tous ceux et celles qui étaient indécis et qui veulent y participer toujours pour que nous puissions boucler tout le budget qui était prévu pour cette belle journée.
Car c'est uniquement avec cette souscription que le diocèse pourra payer ses prestataires. Et pour l'instant, ce 1 000 000 d'euros ne suffit pas. Il manque plusieurs centaines de milliers d'euros, car la journée papale aura coûté autour d'1 500 000 d'euros. Alors, qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Réponse de Frédéric Constant.
Le gros, ça a été tous les prestataires, tous ceux qui sont intervenus à travers l'organisation, la mise en place. Il y a tout l'audiovisuel, l'image à travers les écrans, les sonos, les podiums, ça chiffre vite. Hein. Oui, il y a un détail technique qui est très important. les toilettes. C'est l'église qui a mis des toilettes dans toute la ville. En plus des toilettes municipales, vous voyez.
Et oui, puisqu'il a fallu des toilettes pour les 40 000 personnes venues voir le pape à Ajaccio. Alors pour l'instant, le diocèse a payé 40% des frais de cette journée, mais il est toujours possible de donner. Alors le vicaire est confiant puisque 80% des Corses sont catholiques, selon le Vatican.
Merci Caroline Félix. Le pape s'exprime régulièrement sur la question des migrants, même s'il ne l'avait pas fait à Ajaccio il y a deux semaines. Les repousser est un péché grave, avait dit François l'été dernier. Eh bien, une vingtaine de migrants sont portés disparus aujourd'hui au large de l'île italienne de Lampedusa. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en Italie. À 7h, Bruno, seuls 7, dont un enfant de 8 ans, ont pu être secourus.
Oui, 7 ans l'enfant, il voyageait avec sa mère portée disparue. Selon les premiers récits, c'est un autre proche qui l'a tenu hors de l'eau après le naufrage. Famille syrienne qui avait pour horizon l'Allemagne où le père se trouve déjà. Le petit garçon a pu lui parler lors d'un appel vidéo. Les autres survivants viennent de Syrie aussi, mais encore du Soudan et d'Égypte. Après avoir passé la nuit dans le centre de la Croix-Rouge de Lampedusa, ils doivent être transférés dans la journée, dans un premier temps à Porto Empedocle et en Sicile, où se trouve un centre de première assistance, identification et information sur les droits des migrants. En milieu de matinée, les autres naufragés restaient portés disparus malgré les recherches. Près de 300 personnes ont débarqué à Lampedusa ces dernières heures, mais le centre de la Croix-Rouge n'est à ce stade pas dans la situation de saturation dans laquelle il se trouvait lors de la dernière crise majeure à l'été 2023. L'an dernier, du fait des mesures prises par le gouvernement à Rome, les arrivées d'exilés sans papier ont baissé de près de 60%. D'autres route se développe. 2024 a par exemple été une année record pour les arrivées de migrants aux îles Canaries.
Merci Bruno Duvic, en direct de Rome, origine syrienne donc pour certains de ces migrants. La Syrie qui hier soir a fêté dans l'allégresse le passage à 2025, feux d'artifice et DJ dans les rues pour célébrer le premier réveillon de la Saint-Sylvestre sans Bachar al-Assad. Le nouveau ministre de l'Information des Nouvelles Autorités lui affirme ce matin à nos confrères de l'AFP qu'il œuvrera pour une presse libre s'engageant à garantir la liberté d'expression. Nous en parlions hier ici même. Comme prévu, les livraisons de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine ont définitivement cessé ce matin. Le ministre ukrainien de l'énergie l'a confirmé par communiqué. Le contrat signé en 2019 entre Russes et Ukrainiens n'a pas été reconduit. La Pologne, qui prend aujourd'hui la présidence tournante de l'Union européenne, salue une victoire historique, fin de citation. Quand la Slovaquie, qui elle achète beaucoup de son gaz à la Russie, la Slovaquie, elle, met en garde contre des conséquences drastiques. Nous évoquerons dans quelques minutes avec Eric Fotorino du 1 Hebdo la mémoire d'Émile de Girardin. C'est le père de la presse moderne en France. Et c'est important d'en parler à un moment tournant, charnière pour la presse. Illustration aujourd'hui, ce qui se passe en Polynésie française, où vous ne pouvez plus, depuis ce matin, trouver des journaux comme Le Monde, Libération, Le Figaro ou encore Le Canard Enchaîné en kiosque, puisque l'unique distributeur local de la presse nationale et internationale, Hachette Pacifique, a décidé d'arrêter leur importation. En cause, le service qui est largement déficitaire. Jusqu'ici, l'entreprise pouvait bénéficier d'une aide financière. Désormais, c'est terminé. La conséquence, c'est que dans les tabac-presse, seuls quelques magazines locaux et l'unique quotidien de Polynésie, Tahiti Info, continueront à être distribués. Un gros trou dans la trésorerie pour ce kiosquier que vous avez pu interroger, Arthur Fradin.
Installé dans le centre-ville de Papeete depuis 2003 avec son
tabacado le kiosque, face à la poste, face à l'OPT.
Jean-Marc Castillo a appris à l'automne que la presse nationale allait disparaître de ses étals dès ce 1er janvier.
C'est un manque à gagner assez important parce que la presse représente 15% de notre chiffre d'affaires.
Il rappelle par ailleurs que la presse est un produit d'appel qui ramène de nombreux clients.
Ils viennent pour acheter leur magazine ou autre et après une boisson, un chocolat, d'autres ventes annexes. Il n'y a pas beaucoup de choses avec lesquelles on peut remplacer. On a beaucoup moins de produits qu'en France. Par exemple, tout ce qui est les coupons de transcash, les thèmes fiscaux, on n'a pas droit.
Alors certes, il le reconnaît, beaucoup de Polynésiens se sont mis au numérique. Les prix au numéro, 8 euros pour un Paris Match, deux fois plus qu'en métropole, pouvaient également paraître prohibitifs. Cependant, sa crainte immédiate est de devoir tailler dans ses effectifs.
J'ai 5 employés. La presse en moins, si on n'arrive pas à rentabiliser, trouver d'autres idées, ben on devra se séparer d'au moins une personne minimum.
Il se dit également inquiet pour le droit à l'information et se sent abandonné par la France et les autorités polynésiennes. Mince espoir pour que la distribution continue, la possibilité d'installer des imprimantes locales, comme le quotidien France Anti l'a fait en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.
Explication Arthur Fradin, le cinéma.
Moteur.
Top
bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Bonjour Alexis Demeyer.
Rebonjour Jérôme.
Il n'y a pas de jour férié pour le cinéma. De nombreux films en salle aujourd'hui. On part immédiatement à Hong Kong pour un drame paradoxalement intitulé Tout ira bien.
Un couple composé de deux femmes sexagénaires mène une retraite paisible et dynamique dans un joli quartier de Hong Kong, mais quand l'une d'entre elles décède, l'autre se retrouve privée de ses biens et même de son deuil, car en Chine, les droits des concubins homosexuels sont très limités. Même s'il y a un côté parfois démonstratif dans ce drame social, Tout ira bien est un très joli film que je vous recommande chaudement.
Une comédie romantique également, qui s'appelle L'amour au présent.
Oui, les amateurs de Love Actually et autres Quand Harry rencontre Sally devraient trouver leur compte ici avec cette histoire d'amour entre Almut, une jeune cuisinière bisexuelle, et Tobias, un cadre commercial fraîchement divorcé.
I'm okay, it's okay, it's a lot. It's okay not to be okay.
Tous les passages obligés de la rom-com sont là, la rencontre bien sûr, les crises à surmonter, les projets de vie, etc. etc. Construit sous forme de flashback, L'amour au présent nous fait donc aussi voyager dans le passé des deux tourtereaux, interprétés par les très inspirés Florence Pugh et Andrew Garfield. Le réalisateur irlandais John Crowley ne cherche pas du tout à révolutionner le genre, mais parvient à séduire et surtout à émouvoir, puisqu'un cancer foudroyant est au cœur de l'intrigue.
Vous nous emmenez maintenant en Scandinavie pour le film Maya, une épopée finlandaise.
Comme son titre l'indique, c'est une saga nordique et féminine qui nous est proposée, et vous en aurez pour votre argent, puisque cette fresque dure 2h44 minutes.
I hereby claim this territory in the name of Her Majesty.
Nous sommes au 19e siècle, Maya est mariée de force à un pêcheur qu'elle ne connaît pas, mais dont elle va tomber folle amoureuse. Le couple s'installe sur une île très sauvage et plusieurs enfants naissent, mais la guerre avec les Britanniques éclate. Adapté des best-sellers de Annie Blomqvist, ce film réalisé par la Finlandaise Tiina Liimi nous transporte dans une époque et des paysages qui ne laissent pas insensibles.
Mais vous avez gardé le meilleur pour la fin, votre coup de cœur de la semaine Alexis, c'est un petit film indépendant américain sur le baseball.
That's one for the history books.
Play ball! Dead ball!
Ifus, c'est le titre de cette petite production américaine. Et c'est aussi, vous le savez Jérôme, un geste technique au baseball, un lancer de balle en forme d'arc-en-ciel qui permet de tromper le frappeur adverse. Le jeune cinéaste Carson Lund signe ici son premier long métrage filmant le dernier match de baseball de deux équipes de vétérans bedonnants qui jouent sur un terrain qui va être détruit. Tourné dans une région rurale du nord-est des États-Unis, Ifus montre une Amérique crépusculaire avec une tendresse mêlée d'ironie.
Quoi d'autre à l'affiche en ce 1er janvier, Alexis ?
Un ours dans le Jura, une comédie noire de et avec Franck Dubosc, Bird, un film de genre sur le genre par la Britannique Andrea Arnold, et Toto Chan, la petite fille à la fenêtre, un joli dessin animé japonais sur l'enfance et la différence.
Merci Alexis Demeyer pour ses coups de cœur. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Et puis à partir de 13h30, l'homme qui avec son équipe n'en finit pas de renverser l'Europe du foot, c'est Éric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois. Il est notre invité avant un mois de janvier brûlant pour son club. Il y aura notamment la réception du Real Madrid en Bretagne. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également par l'application Radio France. Venez nous dire si ce parcours vous inspire. Peut-être si vous suivez le foot ou peut-être si vous le suivez moins d'ailleurs. 13h45, le meilleur de notre feuilleton. Nous redécouvrons le restaurant inclusif La Belle Étincelle, qui emploie des personnes en situation de handicap. 13h50, c'est la France avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Bonjour Eric.
Bonjour Jérôme.
Et excellente année à vous.
Merci.
Ainsi qu'à vos lecteurs. Eric, aujourd'hui, hommage à l'un de vos prédécesseurs.
Et oui.
En quelque sorte.
C'est vrai, oui, un lointain prédécesseur, puisqu'il a brillé en 1836, vous voyez. Il s'appelait Émile de Girardin. On le surnommait le Napoléon de la presse. Un titre, vous le verrez, qui n'était pas usurpé.
Et puis juste avant 14h, c'est une chanson toujours spéciale années 80. L'écrivaine Marie Dariussec demande le groupe Taxi Girl à Frédéric Pommier. À tout de suite.
France Inter présente
Blockbuster, le podcast des passionnés passionnants sur la culture qui cartonne.
Frédéric Sigrist.
4 épisodes inédits à découvrir. Un entretien exclusif avec les réalisateurs d'Arkane, la série événement du studio d'animation français Fortiche. Gundam, la franchise de robots géants japonais culte. L'émission Drag Race, comment ce phénomène a su conquérir le cœur des spectateurs français. Et enfin, William Shakespeare, qui a inspiré tout un pan de la pop culture contemporaine.
Blockbuster.
À écouter et à télécharger sur l'application Radio France.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Je vous souhaite une excellente année à vous aussi, 2025, début d'année ensoleillé sur l'Est et le Sud-Ouest.
Oui, les grisailles se dissipent et laissent place au soleil des Pyrénées à la Gironde, au Limousin et à l'Auvergne, et de la Lorraine et l'Alsace jusqu'en Rhône-Alpes, à la Provence et à la Corse. Alors localement, notamment près de la Garonne et dans le Val-de-Saône, des plaques de nuages bas pourront tout de même persister. L'après-midi sera plus gris sur le Languedoc à cause d'entrées maritimes qui restent compactes. Et puis le ciel sera aussi chargé entre les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, l'Orléanais, l'Île-de-France et les frontières belges, puisqu'une perturbation arrive. L'ambiance est également bien ventée, avec des rafales qui pourront être violentes le long de la Manche. Les pluies ne tarderont pas près de la Manche, justement. Elles deviendront plus généralisées et régulières, voire soutenues ce soir sur le Nord-Ouest et en s'enfonçant sur le pays. Durant la nuit et demain, la perturbation pourra donner un peu de neige jusqu'en plaine sur le Nord-Est. Les températures, elles sont en hausse. Les maximales retrouvent globalement des valeurs de saison. 5 degrés à Nancy, 7 degrés à Strasbourg et à Lyon, 8 degrés pour Paris, 9 degrés à Lille et Bordeaux. On attend 12 degrés à Caen, Toulouse et Marseille, 13 degrés du côté de Brest et jusqu'à 15 degrés à Ajaccio et Biarritz.
Vous êtes supporter brestois, je crois, Sébastien Léas.
Absolument.
Alors restez bien à l'écoute avec nous.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Éric Roy.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14, entraîneur du Stade Brestois 29, le club de football de Brest, qui ne cesse de nous surprendre. Troisième de Ligue 1 la saison dernière, 7e sur 36 actuellement du classement de la Ligue des Champions. Après 6 journées, la Ligue des Champions, c'est la compétition de club la plus relevée au monde et Brest en est le petit poussé. Brest est une équipe que vous avez sauvée de la descente en 2023 avant de la conduire très haut, vous qui n'aviez plus entraîné depuis 10 ans. On va parler de cette histoire incroyable ensemble et avec les auditeurs d'Inter. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Éric Roy, plutôt que de vous souhaiter, moi, une bonne année, je vais plutôt laisser la parole à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à France Inter pour sa classe, pour sa connaissance du football également. C'est Arsène Wenger, entraîneur pendant 22 ans du club d'Arsenal, 3 fois champion d'Angleterre. Il nous a envoyé ce petit message hier soir.
Bonjour Éric, d'abord tous mes meilleurs voeux pour 2025, que tu continues ton excellent travail et surtout les excellents résultats. Félicitations pour ton éclat de démonstration de la qualité des entraîneurs français. Et je voudrais surtout saluer la classe, l'humilité, le respect avec lequel tu fais tout cela. Donc vraiment, on est tous très fiers de toi et bonne continuation.
Voilà, message personnalisé pour vous, Éric Roy. Votre réaction ?
Ah bah c'est touchant, hein. Ça fait plaisir, surtout venant d'Arsène. Alors Arsène, on se connaît un petit peu, même si on... j'ai jamais été un de ses joueurs, notamment quand moi je jouais à Nice, qu'il était à Monaco. Et puis après, malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir atteindre le niveau pour pouvoir être un de ses joueurs à Arsenal. Mais en tous les cas, comme il est quand même basé un petit peu aussi dans le sud, parce qu'il a une maison et près de Nice, donc on s'est côtoyé quelques fois. Et c'est vrai que d'avoir ce genre de témoignage d'une personnalité comme ça du foot si importante, hein, du foot mondial, il faut quand même le reconnaître, parce que le travail qu'il a fait pendant des années, ouais, et des années. À Arsenal, c'est quand même assez extraordinaire. Ben, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, quoi. Ça touche forcément.
Vous avez des valeurs communes, il le dit Arsène Wenger, humilité et respect. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Éric Roy, concrètement, ces deux mots qui sont parfois un peu galvaudés ?
Ouais, c'est pas du tout galvaudé, parce que c'est vrai que pour moi, tu vois, vous avez parlé de mon arrivée en 2023, ouais, et de le fait d'avoir sauvé l'équipe à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était très important pour moi de poser un petit peu des choses. Et un cadre de travail, et dans ce cadre de travail, je parle souvent d'humilité et beaucoup de respect. Je pense que l'humilité, c'est vraiment une des valeurs qui est essentielle dans notre milieu, dans notre sport, parce que tout va très vite. Voilà, on enchaîne les matchs, d'une semaine sur l'autre, il faut toujours se remettre en question. et que voilà, il faut pas oublier d'où l'on vient, le club que l'on est aussi, même si, comme je dis souvent, cette humilité, elle doit pas forcément manquer d'ambition malgré tout, quoi. Et c'est ça aussi que j'essaie de transmettre aux joueurs, qu'on essaie de transmettre avec le staff, parce que je pense que c'est une valeur essentielle.
Est-ce que c'est lié aussi à votre parcours ? Je l'ai dit, vous avez entraîné un peu à Nice et puis après 10 ans sans entraîner, 10 ans sans que le téléphone ne sonne pour une proposition pour être entraîneur. Est-ce que aussi ça vous a appris ça ?
Oui, forcément, mais de toute façon, le sport de haut niveau vous apprend ça. Parce que quand vous manquez d'humilité, vous retombez rapidement dans vos travers et puis vous êtes sanctionné très rapidement. Donc je pense qu'il faut toujours garder en tête que malgré tout, on a la chance de faire un métier extraordinaire déjà, d'être dans... Alors quand on est passionné de foot comme moi, d'en pouvoir faire sa carrière d'abord et puis après de pouvoir continuer pendant des années dans ce milieu-là, c'est quand même une chance extraordinaire. Et puis après aussi que voilà, rien n'est jamais acquis et que quelque part, c'est vrai que mon histoire, elle est un petit peu semblable à cette histoire du Stade Brestois quelque part, parce que c'est vrai que les résultats depuis maintenant quelques mois, c'est quelque chose un peu irrationnel, quoi, et que ma trajectoire, en fait, comme vous l'avez dit, d'avoir à un moment donné pour mon club de cœur, être descendu sur le terrain, faire l'entraîneur, que j'avais pas les diplômes, et puis après derrière avoir passé ces diplômes et de plus avoir de projet, voilà, il y a eu des années qui se sont écoulées, donc c'est vrai que c'était cette aventure avec le Stade Brestois, elle est venue un peu à un moment où j'y croyais vraiment plus, quoi. Donc c'est vrai que quelque part.
Vous aviez fait une croix ?
On fait jamais une croix parce que quand on est passionné, mais c'est vrai que j'avais du mal à imaginer que à un moment donné quelqu'un puisse penser à moi pour pouvoir effectivement coacher à nouveau. Donc voilà. Donc c'est vrai que quelque part cette trajectoire là me fait sans cesse penser que tout va très vite et que il faut toujours garder cette humilité, quoi.
Brest qualifié pour la Coupe d'Europe, même pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, et puis pour la deuxième phase maintenant de la compétition devant le Paris Saint-Germain par exemple, inimaginable pour un club qui n'a jamais gagné ni championnat ni Coupe de France, à tel point Éric Roy que les supporters brestois vous ont consacré un chant sur un air de Danny Briand. Ça, c'est ce qu'on entend au stade Francis Leblay, hein, c'est le nom du stade de Brest, peut-être à Roudourou aussi, à Guingamp, où vous disputez les matchs de Coupe d'Europe. Ils ont de l'humour, vos supporters ?
Ouais, ils ont beaucoup d'humour, et c'est vrai que c'est ce qu'on aime aussi, hein, des supporters, parce qu'on décrit souvent les supporters pour les choses un petit peu négatives qu'il peut y avoir dans les stades, et c'est vrai que malheureusement, ça peut arriver, mais il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de, alors vous l'avez dit, des fois d'humour aussi, et donc quelque part ce genre de témoignage, c'est on n'en sort jamais complètement, voilà, c'est touchant, donc forcément ça fait plaisir, et en même temps c'est aussi peut-être parce que justement cette équipe, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, moi, mon staff, c'est que cette équipe, elle a transmis des émotions aux gens, et je pense pas qu'aux supporters brestois, parce que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent « Ah, on regarde vos matchs et franchement, vous nous faites plaisir. » Et c'est pas des gens qui sont au départ des supporters du Stade Brestois. Donc,
et des messages qui viennent au-delà de la Bretagne, Éric Roy ?
Oui, bien sûr. Bah, vous savez, quand vous êtes dans ce milieu-là, forcément, il y a beaucoup de gens. J'ai quand même beaucoup de personnes que je connais dans ce milieu-là et globalement, et pas que dans le milieu. Et c'est vrai que quelque part, la plus grande satisfaction, c'est ça. C'est quelque part de pouvoir transmettre quelque chose à travers un sport, à travers une équipe, à travers une expression collective aussi. Et c'est vrai que ça, c'est forcément les plus beaux témoignages qu'on peut avoir.
Parlez-nous de Brest, vous qui êtes niçois. C'est une ville particulière, c'est un club très particulier aussi.
Ouais, c'est un club particulier, c'est un club très identitaire aussi. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon parcours de... Alors, ou de jouer, ou de travailler après en tant que dirigeant dans des clubs qui étaient à très forte valeur identitaire, et Brest en fait partie. Donc voilà, moi, quand je suis arrivé, j'avais la volonté de m'imprégner. Je dois le dire, j'étais venu en Bretagne peut-être une ou deux fois, et notamment pour y jouer, mais réellement jamais pour y avoir passé du temps. Donc voilà, donc c'est vrai que quelque part, c'est aussi important quand on débarque quelque part, qu'on prend en main une équipe, un club... De comprendre aussi la mentalité, ce que les gens attendent, notamment de leur équipe, c'est pour les supporters. Et puis après de pouvoir effectivement, j'allais dire appréhender cet environnement, parce que c'est vrai que c'est aussi notre travail et que quelque part aujourd'hui, je pense que l'équipe, et c'est ça qui fait plaisir aussi, elle colle parfaitement aux valeurs et aussi à ce qu'attendent les gens tout simplement.
Vous avez envie de rester ? Vous êtes en fin de contrat au mois de juin, est-ce que vous allez prolonger ?
Bah, je sais pas, on a à peine commencé à pouvoir en discuter juste avant les vacances, donc je pense qu'on se reverra assez prochainement avec les dirigeants, avec Greg Lorenzi qui est vraiment l'architecte aussi de ce club.
Le directeur sportif du club.
Il faut jamais oublier le travail formidable qu'il fait depuis de nombreuses années ici dans ce club, et aujourd'hui si on en est là, c'est forcément qu'il en est un des grands artisans, mais tout est possible, hein. Moi je suis tout à fait disposé à discuter. Après, bien sûr, on verra ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'enchaînement déjà qui nous attend en janvier, en février, quand je vois le nombre de matchs,
c'est ça.
On va avoir pas beaucoup de temps pour discuter et plus pour jouer, quoi, en fait.
Il y a le championnat, c'est le match contre Angers qui débute l'année, c'est ce week-end. Et le dernier match du mois de janvier, ce sera à Roudourou en Ligue des Champions face au Real Madrid. C'est quand même le choc des mondes, ça, Éric Roy. Amener le Real Madrid à Roudourou, à Guingamp, pour jouer face au Stade Brestois.
Ouais, c'est vrai que, bon, comme je l'ai dit, hein, c'était quelque chose qui était peut-être pas imaginable. Alors, on a beaucoup de témoignages de supporters, et c'est vrai que, bon, ils ont l'impression de vivre un rêve éveillé. Et tant mieux. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de on fait ce métier. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Après, nous, on reste dans notre quotidien à préparer les matchs les uns après les autres. Et le Real Madrid, c'est encore bien loin, mais on a 6 matchs avant ça dans ce mois de janvier. Donc voilà, cette année 2025, elle va commencer sur les chapeaux de roue. Et il faudra être capable de répondre présent, tout en sachant en plus qu'on a un certain nombre de blessés. Et ça, c'est pas la chose la plus évidente à gérer.
Vous avez dit il y a quelques jours, après un nouvel exploit en Coupe d'Europe, on essaie d'éliminer les petits clubs comme nous. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Éric Roy ?
Non, mais c'est vrai que quand on voit, en fait, ne serait-ce qu'on parle souvent du stade, où est-ce qu'on va jouer éventuellement un 16e ou un 8e de finale, on ne sait pas où on sera, mais en tous les cas...
Parce que le stade de Guingamp n'est pas homologué pour la suite, donc soit il faut faire des travaux à Guingamp, soit il faut aller ailleurs.
Déjà
votre stade de Brest n'est pas homologué, votre président aimerait bien aller jouer au stade de France.
Oui, j'en sais rien, parce que là, je laisse vraiment mes dirigeants voir ça. Maintenant, il est évident que pour la... Alors, notre stade n'est pas homologué pour la phase de groupe, alors qu'il est homologué pour la Ligue 1. Donc, alors, ça veut dire que les matchs de Champions League, c'est pas les mêmes matchs que la Ligue 1, a priori. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on fait prendre des risques à nos supporters quand ils viennent voir nos matchs au championnat national. Après, on va dans un autre stade parce que, effectivement, là, il est homologué, mais il est plus homologué pour la suite, donc pour la deuxième phase. Bon, donc c'est vrai qu'on se dit que voilà, c'est un petit peu c'est ce genre de compétition qui sont en fait organisées pour les grands clubs, ceux qui ont des grands stades, ceux qui ont des grandes infrastructures, et qu'il n'y a plus la place en fait pour justement ce qu'on aime bien aussi dans la Coupe de France par exemple, d'avoir le petit poussé qui est capable de renverser des équipes plus fortes avec des budgets plus importants. Et ça reste quand même le sport. Mmh. Et le sport, c'est quoi ? Ça reste de l'incertitude, et ça reste quand même quelque part la notion de performance. Donc voilà. Donc c'est il faut reconnaître que nos 8 matchs de la première phase de poule, on les aura joués toutes à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Même si à Guingamp, c'est quand même bien privilégié le stade.
Vous voulez y rester à Guingamp, Éric Roy, pour la suite ?
Moi, en tous les cas, je me plierai aux décisions de mes dirigeants, mais il est évident que si on doit rester à Guingamp, ça sera en tous les cas un grand plaisir.
Éric Roy, il y a un homme qui a beaucoup compté pour vous dans votre parcours, c'est votre père, Serge. Il a 92 ans, c'est le doyen des internationaux français, puisqu'il compte une sélection en équipe de France. Comment est-ce qu'il va ?
Écoutez, il va bien et il suit les résultats forcément du stade brestois. Et donc, on échange... souvent, avant, après les matchs. Ça a été une inspiration parce que c'est quelqu'un c'est un papa qui a été très proche, qui était, comme dit ma maman souvent, un papa maman parce qu'il aime son fils avec ses tripes. Et c'est vrai que, voilà, on a toujours été très proches et il a toujours été, et protecteur et en même temps conseiller parce que voilà, il a fait sa carrière et que quelque part, et je pense que c'est de lui que me vient aussi ces valeurs-là. Lui, c'est un Bourguignon, hein, de Beaune, qui est venu dans le sud parce qu'il y a terminé sa carrière et il y est resté parce qu'il s'est marié avec une niçoise. Donc voilà, donc c'est vrai que quelque part, ses valeurs de la Bourgogne, ses valeurs d'humilité, ses valeurs de travail, ses valeurs de respect, elles me viennent certainement aussi de lui, forcément.
Il a été l'un de nos grands joueurs dans les années 60. En préparant cette interview, je suis retombé sur cette archive. Éric Roy, c'est le commentaire de la finale de la Coupe de France 1960. Votre père porte les couleurs de l'AS Monaco opposé à Saint-Étienne.
Les deux équipes, dans ces premières minutes de cette 43e finale, s'observent. Vous voyez les joueurs de Monaco qui réussissent à contre-attaquer en lançant très bien ici leur ailier gauche Carlier. Carlier qui empêche la balle de sortir en touche, qui fait un centre magnifique, bien repris par Roy. Et c'est le premier but monégasque. Et vous l'avez senti venir aussi bien que moi.
Premier but inscrit par Roy, nous dit le commentateur.
Je crois que c'était un but, effectivement. Il a fait un doublé ce jour-là.
C'est ça, le premier et le dernier.
Monaco avait gagné 4-2.
Le foot, c'est un héritage pour vous, Éric Roy, mais c'est pas toujours facile de passer après son père.
Non, c'est vrai que Roy, il y a eu des familles qui sont construites autour du foot. Hein, je pense au Djor KF notamment, et c'est vrai que peut-être au début de ma carrière et notamment quand j'étais plus jeune, bon, j'étais souvent un petit peu comparé à mon père, ou en tous les cas, on faisait souvent référence à mon père. Donc, je crois qu'il faut aussi à un moment donné être capable de tracer sa route, mais sans jamais perdre de vue que quelque part. Voilà, si j'ai embrassé cette passion, ce métier, c'est forcément par rapport à mon papa, quoi.
Éric Roy, un mot de l'année qui vient. Vous avez fait tellement dans cette année 2024. Est-ce que quand on aborde une année comme celle-ci, on se dit ça va être dur de faire aussi bien? Les attentes sont énormes.
Ouais, forcément, ça va être dur de faire aussi bien, ça c'est sûr. Maintenant, je crois que c'est important aussi de se construire. Et cette année, elle va être importante pour mes joueurs, elle va être importante pour ce club aussi, sans s'enflammer non plus, mais en tous les cas, en se disant que voilà, c'était un club qui progresse, c'est des joueurs qui progressent, c'est un collectif aussi qui avance, et que, ouais, comme je l'aurais dit, on a envie quand même d'exister malgré tout dans cette Ligue 1 cette année, de revenir un peu au classement. Donc voilà, rien n'est interdit, tout est possible, et c'est pas parce qu'on fait une grande saison une année qu'on n'est pas capable de la rééditer l'année suivante. Donc voilà, les forces vives, elles sont là. Après, on sait qu'une saison, des fois, ça tourne avec un petit peu plus de chance, un peu moins de blessés, des choses comme ça. Donc voilà, et c'est vrai aussi que nous, ce qui était important cette année, c'était d'être capable d'appréhender ces semaines à 3 matchs. Que mes joueurs en fait connaissaient assez peu, et donc aujourd'hui on est en train d'apprendre tout ça, et j'espère en tous les cas que ça débouchera sur quelque chose de bien en fin de saison en juin.
On l'espère aussi pour vous. Merci Éric Roy, merci d'avoir choisi France Inter pour commencer cette année 2025. Que l'on
C'était
vous souhaite la plus réussie possible avec vos joueurs. Brest qui joue donc dimanche en championnat à Angers, son premier match de l'année. 13h46 sur Inter. Notre feuilleton. Toute cette semaine, nous nous replongeons dans les rencontres qui nous ont marquées ces derniers mois et qui résonnent dans l'actualité. Ainsi, la place accordée aux personnes en situation de handicap, le succès du film Un petit truc en plus, des Jeux paralympiques également, ont marqué les esprits. Et puis, il y a le quotidien dans les entreprises. Et nous avions passé une semaine, il y a peu, dans un restaurant inclusif à Paris. C'est la Belle Étincelle, quartier Montparnasse. Ici, sur 12 salariés, 8 sont en situation de handicap. Aujourd'hui, grâce à Alice Cachaner, nous sommes en salle avec Thaïs, Jean-Pierre et des clients aux anges.
Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Ah, avez-vous réservé?
Oui.
Venez à...
Bon,
je m'appelle Thaïs, j'ai 19 ans.
Votre rôle, c'est d'accueillir.
J'aime bien travailler ici parce que ça m'ouvre des portes pour mon avenir et pour ce que je voudrais faire plus tard. Travailler dans un restaurant, sinon de travailler dans une école de cuisine.
Il est 13h et le restaurant affiche complet, c'est le coup de feu.
C'est Thaïs qui va s'occuper de vous. Elle arrive tout de suite. Parce que j'ai vu qu'ils commençaient à nous regarder. Dans un restaurant classique, ils auraient déjà demandé à être servis rapidement.
Ben moi, je vais vous prendre une entrée, mais qui est écrite là en bleu. C'est le velouté de champignons.
Sur l'ardoise, une entrée verte. Et ensuite, un plat bleu qui est cabillaud.
Ben moi, je vais vous prendre un plat vert, la longe de veau.
Plat vert.
On a mis un système de commande par couleur pour éviter que les jeunes aient besoin de noter le plat. Donc quand le client commande, l'équipier doit expliquer que pour prendre la commande, il doit annoncer la couleur et non pas le nom du plat.
Par exemple, il faudra dire...
Je prends l'entrée bleue avec le plat vert et le dessert rouge.
Je vous remercie, mesdames. Et donc, Chéna, c'est plus facile de faire comme ça?
Oui, pourquoi? Moi, j'ai des problèmes de lecture. Ça m'aide par rapport à mon boulot.
On va demander à un client ce qu'il pense du dispositif.
Ça change complètement de la tradition et on n'est pas du tout sur les mêmes codes. Et je trouve ça d'une simplicité magnifique.
Et filet de bar, oui, de machin, monsieur. Merci.
Il paraît que vous êtes des habitués ?
Oui, moi je viens plusieurs fois par mois, plutôt pour faire des déjeuners de travail en général. Mais le service n'est pas au rabais, c'est vraiment un service de qualité. C'est juste qu'ils ont trouvé des solutions. Moi j'ai toujours trouvé ça très pro. C'est vraiment une pépite dans les restos parisiens pour moi.
Alors on a quoi là ? 21, tu l'emmènes Antoine ?
Oui.
Allez, go.
Ça va ? Tout se passe bien, Thaïs ? Non, parce que là, parfois, là, je trouve que c'est un petit peu le rush. Alors, du coup, là, c'est un petit peu fatigant parce que là, il y a plein de bruit et tout ça. Donc, j'essaie de faire avec.
Et s'il y a trop de bruit, vous pouvez toujours faire une pause à la salle de repos.
Oui. Bah, il suffit juste que je demande à Jean-Pierre ou soit à Michel.
Mais moi, c'est Jean-Pierre. Je suis là pour encadrer le personnel de salle, mais je m'occupe des 8 équipiers. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, ils viennent me voir, ils me parlent. Ben, c'est important parce que, d'abord, ils ont besoin en permanence d'être guidés. Ce sont des jeunes qui ont un handicap principalement du spectre de l'autisme. Donc, ce sont des jeunes qui ont des vies très rangées. Tout est programmé. Et c'est vrai que dès qu'il y a un caillou ou quoi que ce soit sur leur chemin, ben voilà, ils sont déroutés. Tous les jours, on recommence une nouvelle page blanche, en fait.
Viens voir ici, Madeleine. Fais attention, tu t'es trompée à la table 7. C'est une entrée verte, la dame, qu'elle veut, en même temps que les plats. Ok, on y va ?
Oui.
Merci, madame.
En fait, ils arrivent tous avec leur lot de problèmes. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas une situation familiale stable. Souvent, ils vivent seuls chez eux, ou en foyer. Donc, quand ils arrivent, ils ont besoin de renouer un contact. Et ils ont besoin qu'on leur demande comment tu vas. On ne peut pas attaquer le travail comme avec des gens ordinaires, où on leur dit, tes soucis, tu les laisses dehors et tu t'attaques le boulot. Non, là, je suis obligé de m'arrêter, je suis obligé d'être à leur écoute. C'est des petits détails, c'est rien. Mais c'est des détails qui font que si on ne les résout pas tout de suite, la journée, elle est foutue pour eux. Et tous les jours, c'est comme ça, depuis 3 ans.
La belle étincelle, feuilleton signé Alice Cachanet, réalisation Stéphane Ronxin. Vous le retrouvez en intégralité sur l'application Radio France. Je reviens un instant sur l'information que je vous donnais tout à l'heure. À 13h, c'est 10 personnes au moins qui sont mortes à la Nouvelle-Orléans et plusieurs dizaines de blessés fauchés par un poids lourd dans ce que la maire de la Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis, qualifie d'attaque terroriste. Et on apprend également que 2 policiers ont été blessés par balle lors de cette attaque. Nous serons dans une dizaine de minutes dans le flash de 14h en direct des États-Unis.
France Inter, le 13-14.
Avant cela, 13h51, c'est la France, le mercredi, et le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, à l'heure où les journaux doivent se réinventer, moins de papier, davantage de numérique, il est bon de revenir aux sources, et vous faites l'éloge d'un grand homme de presse.
Et oui, Jérôme, c'est un paradoxe de proposer à la radio un éloge de la presse écrite. Vous le savez, c'est un univers qui m'occupe et me passionne depuis 40 ans, et même 41, désormais, puisque ma première carte de presse remonte à 1984. Non pas que la presse écrite soit à mes yeux la plus importante, plus fiable ou plus sérieuse. À la radio, vous le montrez chaque jour, vous êtes tout autant engagé par les mots que vous prononcez que mon journal, par les mots qu'il imprime. Vous vous souvenez de l'expression du philosophe Hegel, pour qui la lecture du journal était la prière du matin de l'homme moderne. J'ai aussi à cœur cette phrase du fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, pour qui son journal coûtait à la fois son prix de vente, plus l'effort pour le lire. Et c'est une vérité permanente, l'information coûte à celui qui la produit, coûte aussi à celui qui la lit, qui l'écoute aussi, qui se donne la peine de la lire et de la comprendre. Aujourd'hui, la plupart des grands journaux ont basculé de l'écrit à l'écran, alimentant l'idée que la presse papier pourrait bientôt disparaître. J'observe pourtant que les supports numériques et physiques cohabitent sur une échelle de 1 à 10 qui va de la lenteur à la vitesse étourdissante dont on dit parfois qu'elle fait perdre connaissance. Cette résistance du papier m'amène en effet à évoquer la figure qui révolutionna la presse du 19e siècle, un certain Émile de Girardin.
Alors, qui était-il et qu'a-t-il inventé ?
Il était le fils illégitime d'un général d'Empire. C'était surtout un entrepreneur avisé. Et Émile de Girardin eut l'idée d'accroître le nombre de ses lecteurs en abaissant de moitié le prix des journaux. C'est ainsi que naquit en 1836 son journal quotidien, dans le journal Il y a jour, baptisé tout simplement La Presse, une feuille bon marché qui connut un immense succès et inventa précisément le modèle de la presse française jusqu'à l'orée des années 2000. Il faut rappeler qu'au début du 19e siècle, la presse écrite était pour l'essentiel réservée aux élites car elle coûtait cher, comme le rappelle l'historienne Adeline Vrona dans une excellente biographie qui paraît ces jours-ci chez Gallimard. La recette d'Émile de Girardin était simple. Il inventa ce qu'on appelait alors la réclame, c'est-à-dire la publicité, dans les journaux. En vendant à des annonceurs des placards publicitaires, il permit soudain de diminuer fortement ses coûts. Le journal fut désormais vendu deux fois moins cher, car vendu deux fois à deux publics différents, une fois à ses lecteurs et une fois à ses annonceurs.
Coup de génie donc, a-t-il suffi pour assurer le succès de son journal ?
Alors, il fut bien sûr décisif. Aujourd'hui, si Le Monde ou Le Figaro, par exemple, étaient vendus sans publicité, chaque exemplaire, Jérôme, coûterait aussi cher qu'un livre. Et peu de lecteurs pourraient s'offrir ce luxe. En faisant entrer la publicité dans la presse, Émile de Girardin l'a sauvé. Mais pour garder ses lecteurs, il fallait piquer leur curiosité. Et ce fut là l'autre trait de génie de Girardin. C'est lui qui a inventé la parution dans son journal des romans feuilletons. Imaginez qu'il demanda à Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou Honoré de Balzac, rien que ça, d'écrire un feuilleton dont les épisodes, publiés jour après jour, tenaient les lecteurs en haleine. Reste maintenant à inventer la presse écrite de demain, et ça, c'est une autre histoire.
Avec notre feuilleton dans ce 13-14, nous sommes un peu ces héritiers à la une du 1 cette semaine, Eric.
Alors, Jésus, toujours d'actualité, qui était vraiment le Christ ? Et puis notre grand format XL sur la Renaissance de Notre-Dame. Et puis aussi, toujours d'actualité, j'allais dire hélas, notre numéro spécial qui veut faire taire les écrivains, autour de Boualem Sansal, détenu aujourd'hui depuis 46 jours, 46 jours de trop.
Et on sait que son comité de soutien s'inquiète pour sa vie. Merci Eric Fotorino de C'est la France. Ah, c'est une chanson, semaine spéciale année 80, aujourd'hui l'année 1980. Et le titre, Cherchez le garçon du groupe Taxi Girl, un groupe porté par le chanteur Daniel Darc. C'est la romancière Marie Dariussec qui est au micro de Frédéric Pommier. Elle a découvert cette chanson à l'âge de 12 ans. Elle vivait alors au Pays Basque.
D'abord, ils étaient très jolis garçons, tous les trois. Et puis, c'était un groupe dont les garçons s'affichaient avec leur aspect féminin. Et je vous jure qu'au Pays Basque, à Bayonne, en 1981, l'idée qu'on puisse tous avoir du masculin ou du féminin en nous n'était absolument pas évidente. Il y avait une homophobie énorme, monstrueuse. Et ça me plaisait, moi, qu'on puisse s'échapper comme ça de son destin biologique. Et cette chanson, me semblait-il, parlait de ça. Et puis cette espèce de synthétiseur bon tant pis derrière là, en fait c'était le nouveau son, la nouvelle vague qui arrivait, juste après le punk. Il y avait un son qui peut-être sembler un peu artisanal, disons, aujourd'hui, mais qui était extrêmement novateur dans cette espèce de froideur acidulée, voilà. J'aime énormément cette chanson.
Sur un écran géant, ses yeux se ferment.
C'est vraiment le début de la New Wave. Et la New Wave française. Et là, il y avait une voix très singulière avec Daniel Darc, qui était un garçon avec une personnalité sombre et lumineuse à la fois. Je me rappelle son bras entièrement tatoué de noir. C'était un homme très élégant, que j'ai pas connu, hein, mais extrêmement charismatique. Et c'était un groupe avec une rage très joliment contenue dans des mélodies qui n'avaient l'air de rien. Mais qui était très 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 rageuse à l'intérieur. Si on écoute bien cette chanson, c'est vraiment pas de la variété, c'est du punk en fait. Enfin, c'est de la New Wave.
Réveil tragique succède, un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire.
est-ce que vous avez l'impression que cette chanson-là, elle a participé d'une forme de libération pour vous ?
À 12 ans, on attend que ça, hein, une ouverture sur le monde. 12 ans, j'étais une toute jeune ado, hein, j'avais pas encore le droit de sortir, donc j'écoutais ça toute seule dans ma chambre. Ce que j'ai compris avec ce groupe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la non-binarité. Il n'y avait pas tous ces concepts à l'époque. Mes enfants sont complètement à l'aise maintenant avec ces concepts, la fluidité de genre, etc. Il n'y avait pas le mot genre, il n'y avait que le mot sexe, on ne savait pas trop quoi en faire, c'était immédiatement sexuel, alors que le genre, c'est autre chose que la sexualité. Taxi Girl avait l'intuition de tout ce qui allait venir. C'est vraiment des pionniers. Dans un destin ravagé par la drogue et par la nuit, par un usage de la nuit toxique et en même temps incroyablement festif. Puis c'était Paris. Vu du Pays Basque, vu de la province, comme on disait, Paris brillait de mille feux. Moi, je rêvais d'aller à Paris. C'était le désir de partir. Et de trouver le garçon aussi.
Est-ce que vous l'avez trouvé ?
Ah oui, quand même. J'en ai trouvé plusieurs.
Chercher le garçon. Taxi Girl, c'était donc le choix de l'écrivaine Marie Darrieussecq. Au micro de Frédéric Pommier, Marie Darrieussecq, dont le dernier roman, Fabriquer une femme, est publié chez POL. Mathieu Vidard arrive et la terre au carré.